tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le règne de la séduction avec le philosophe Gilles Lipovetsky. Il s'intéresse aux nouvelles manifestations du désir et à l'impératif de séduction dans un essai sur cette même société intitulé « Plaire et toucher » qui vient de paraître chez Gallimard, à retrouver après le journal d'Antoine Marette. Avant cela, hommage aujourd'hui à Jean d'Ormesson. L'écrivain et académicien est décédé la nuit dernière à l'âge de 92 ans. Normalien, agrégé de philo, passé par l'UNESCO, homme de lettres et homme de presse, attaché à son journal Le Figaro, qu'il dirigea 3 ans dans les années 70, il n'a cessé d'écrire des livres depuis 1956. Retour sur l'œuvre aujourd'hui d'un écrivain facétieux avec l'éditeur Manuel Carcassonne et l'écrivain Dany Laferrière, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Je suis ravagé par le doute. Ravagé. Je ne peux pas vous dire que ma foi est très forte. Ce qui est très fort, c'est l'espérance. Vous avez parlé de ces différents honneurs que j'ai cueillis. Croyez-moi, je n'y attache très peu d'importance. Ce qui compte, finalement, c'est l'amour. Vous savez, quand je mourrai, je ne penserai pas beaucoup à l'Académie ni au Figaro. Je penserai aux gens qui m'ont aimé et aux gens que j'ai aimés.
Charmeur, espiègle, parfois tranchant, angoissé, un homme d'histoire et de culture, d'une grande, grande culture, l'exactitude étant la politesse des rois, il était un écrivain tout sauf approximatif. Grand lecteur, Jean d'Ormesson écrivait et parlait bien, auteur de La gloire de l'Empire, de l'histoire du Juif errant, de Presque rien sur presque tout ou encore de C'était bien. Avec nous pour en parler sur les routes de France, un académicien comme lui, Jean-Christophe Ruffin, ancien ambassadeur de France, écrivain, prix Goncourt pour Rouge Brésil, et producteur pour France Culture de « J'ai déjà connu le bonheur » le dimanche à 12h45. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Olivia Gesbert.
Merci d'être avec nous. « J'ai déjà connu le bonheur » mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Ces mots de Jules Renard qui sont aussi le principe de votre émission, Jean d'Ormesson aurait pu les faire siens. Ils font d'ailleurs écho au titre d'un de ses derniers livres, d'une de ses dernières publications autobiographiques. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle chez Gallimard. Comment aurait-il commencé cette conversation, ce dialogue avec vous sur le bonheur?
Ah ben de toute façon, c'était effectivement son thème favori. Et puis, je crois que j'ai beaucoup appris, comme nous tous d'ailleurs, de lui. Quand j'en parle avec mes confrères, c'est ça qui domine, c'est ce côté maître qu'il était, alors qu'il n'a jamais pontifié, n'a jamais donné un enseignement magistral, mais il était un professeur, bizarrement. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses de lui, et notamment cette quête du bonheur, cette quête du bonheur n'était pas quelque chose de ridicule, n'était pas quelque chose de superficiel. Il y attachait beaucoup d'importance et il trouvait là une profondeur qui était dans toute sa vie, en fait, dans toute son œuvre.
Quête du bonheur et goût de l'ailleurs, comme vous, Jean-Christophe Ruffin. Vous parliez beaucoup ensemble de ce qui se passait au-delà des frontières françaises. Il a voyagé, peut-être pas autant que vous, mais est-ce qu'il était aussi intéressé par tout ce qui se passait hors de France?
Oui, il était intéressé par tout. De toute façon, c'était quelqu'un qui était vraiment à l'affût de tout ce qui se faisait. C'est ça, d'ailleurs, qui est très, très intéressant chez lui, c'est qu'à la fois, il y a un mélange de classicisme qui incarnait dans ses manières, dans sa culture, même dans sa voix, dans sa diction, et puis d'ouverture. C'est-à-dire qu'il était extraordinairement ouvert à tout. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a peu de temps, d'ailleurs, il est venu à la commission du roman, qui attribue la commission dans laquelle on se réunit pour attribuer le grand prix du roman de l'Académie française, qu'il avait eu d'ailleurs pour la gloire de l'Empire. Et il était là, sortant de l'hôpital, faisant très très bonne figure, malgré la maladie qui on sentait présente. Et il était curieux de tous les livres nouveaux qui étaient parus, qui étaient sortis, et il en discutait sur le fond, comme ça, avec une espèce de l'absence totale d'a priori.
Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin. On va revenir ici en studio avec Manuel Carcassonne qui nous a rejoint, directeur général des éditions Stock. Après plus de 20 ans passés chez Grasset, Jean d'Ormesson faisait partie de votre famille. Manuel Carcassonne, bonjour. Il faisait partie de votre famille puisque vous avez partagé la vie de sa fille, l'éditrice Héloïse d'Ormesson. Jean d'Ormesson était un auteur Gallimard, hein, jusqu'à la Pléiade où il a fait son entrée. Vous ne l'avez jamais édité? Presque pas, hein, un échange qui a été publié.
Oui, j'ai eu la chance de, quand j'étais tout jeune, en dehors disons des aspects de la vie privée que vous avez rappelé, j'aime beaucoup Jean, je suis très très triste. J'ai eu la chance de le publier malgré tout quand j'avais 24 ans, je suis entré chez Grasset et on a publié un texte formidable dont le titre, c'est lui qui l'a trouvé le titre, il avait l'art des titres. Ça s'appelle « Tant que vous penserez à moi », un livre d'entretien avec Emmanuel Berle. Et ce « Tant que vous penserez à moi », je trouve, prend toute sa, bien sûr, sa force aujourd'hui, puisque tant qu'on pense à quelqu'un, il est encore vivant. Voilà. Et ce livre était un livre d'entretien avec Emmanuel Berle. Il y en a eu deux livres d'entretien majeurs avec Berle, l'un avec Patrick Modiano, et là avec Jean d'Ormesson, et j'ai une grande affection pour ce petit texte et la préface qu'il avait gentiment donnée à l'époque, parce que ça dit tout aussi de l'espièglerie, de la drôlerie, de la vivacité, de l'amour de la vie. Antinomique de la mort.
Manuel Carcassonne, vous l'avez... Et pour cause, du coup, parce que vous n'étiez pas dans la même maison, peu édité, mais vous étiez très proche de lui. Il paraît qu'il y avait toujours une photo de lui, d'ailleurs, qui vous a suivi de bureau en bureau. Vous étiez quand même l'un de ses premiers lecteurs. Il vous faisait lire ses textes avant même de les faire publier. Il aimait échanger avec vous sur l'écriture, sur la littérature.
Écoutez, sincèrement, je ne veux pas du tout donner un rôle que je n'ai pas. Je pense que moi, quand j'ai quand même connu Jean, c'était un homme qui avait déjà à un certain âge, et c'était quand même une gloire littéraire du pays. Je pense que il savait très bien ce qu'il faisait. Je veux dire par là qu'il maîtrisait très bien l'écriture. Et finalement, ce qui me restera de lui, ce qui nous restera de lui, ce sont les livres, bien sûr, qui prendront d'ailleurs certains plus d'importance que ne le pensait lui-même. Il avait coutume assez drôlement de dire, je salue Dany Laferrière qui vient
nous rejoindre dans
ce studio.
Oui. Bonjour. Et, merci.
Et que j'en aimais beaucoup. Il avait coutume de dire, oh, je finirai comme Henri Bordeaux, vieil écrivain effectivement oublié. Et je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des livres de lui qui sont vraiment supérieurs à d'autres. Il y a toute une part du roman français qui s'exprime aussi à travers ce qu'il a voulu faire, avec une œuvre quand même très 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 prolifique. Mais il y a plusieurs quand même Jean d'Ormesson. Je pense qu'il faudra un jour probablement un livre qui fasse le tour de tous ces Jean d'Ormesson, parce que j'ai connu celui de l'UNESCO, qui avait un bureau à l'UNESCO, qui y allait tous les jours. J'ai connu le patron de Diogène, la revue de philosophie de l'UNESCO. Il y avait quand même l'homme qui a été le directeur du Figaro. Il y a l'académicien, bien sûr, et il y avait surtout, tout le temps, quelqu'un qui était curieux, effectivement, de tout, et qui aimait autant aller faire le dernier petit déjeuner de François Mitterrand que de se réjouir de recevoir à dîner une jolie jeune femme, combien-t-elle serait une amie de la famille. Et je pense qu'il y a énormément de facettes. Un personnage beaucoup plus complexe, en fait, et plus riche qu'on ne le pense, quand même souvent réduit à une caricature souriante de lui-même.
La mort qu'il a emportée cette nuit, Manuel Carcassonne, il la voyait venir. Je ne sais pas s'il la redoutait comme tout un chacun, mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, il tentait de conjurer le sort ou le doute de l'apprivoiser, cette mort, par l'écriture. Hein. Dès 2008, avec « Qu'ai-je donc fait ?», où il écrit « J'ignore s'il y a un Dieu ailleurs, autre chose après la mort, un sens à cette vie et à l'éternité, mais je fais comme si ses promesses étaient déjà tenues et ses espérances réalisées, jusqu'à son prochain livre, attendu l'an prochain, et moi, je vis toujours. » Une autobiographie intellectuelle, le pied de nez, non pas de l'homme, mais peut-être de l'écrivain immortel. C'est aussi à ça que sert l'écriture, hein, son pied de nez à la mort.
Oui, je pense que c'est quand même quelqu'un qui, depuis plusieurs livres, semait, comme le petit poussé, les cailloux de l'autobiographie déguisée. C'est-à-dire que c'est quand même aussi quelqu'un qui évitait de parler trop frontalement de lui-même sur certains aspects, en particulier sa vie privée, hein, dont il parle en fait jamais, et qui de cette manière-là détournait un peu l'attention qui pouvait se porter sur certains aspects de sa vie au profit d'une forme d'autobiographie intellectuelle, au profit d'une forme de traversée aussi du siècle. C'était quelqu'un qui pouvait parler aussi bien des étoiles, des constellations, de physique, du dernier dîner littéraire où on avait l'impression qu'il se réjouissait de savoir qui aurait le Goncourt ou qui aurait le Grand Prix du roman de l'Académie française. Les choses comme ça circulaient avec beaucoup de fluidité, mais la pensée de la mort, je pense, était présente là depuis un certain temps.
Avec nous, Dany Laferrière, écrivain haïtien qui vient nous rejoindre, académicien aussi. Bonjour à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer l'œuvre avant la mémoire d'ailleurs de Jean d'Ormesson. Qu'est-ce que je fais là ? Question qu'il se posait aussi dans son guide des égarés paru l'an dernier chez Gallimard. Il s'est senti un moment écrivain peut-être égaré en littérature, si bien qu'en 66, il faut le rappeler, il fait ses adieux à l'écriture avec au revoir et merci jusqu'à sa rencontre avec le public. Ce sera La gloire de l'Empire en 70 qui va réellement lancer sa trajectoire d'écrivain. C'était un livre un peu boutade, un livre pastiche, même s'il l'a écrit très sérieusement. Il parle d'une mystification carte sur table avec l'aide du lecteur, appelé à jouer le jeu du récit de l'histoire. On l'écoute et je vous donne la parole, Dany Laferrière.
Pour ce livre, j'accepte toutes les interprétations. Les uns ont dit que c'était un livre d'humour, je l'accepte. Les autres ont dit que c'était un énorme canular, je l'accepte parfaitement. D'autres ont dit que c'était la création d'un modèle historique d'une importance considérable, mais pourquoi pas, bien sûr. D'autres ont dit que c'était une rêverie métaphysique, bien sûr. Certains ont dit que c'était une autobiographie déguisée, naturellement. C'est un livre que j'ai écrit volontairement sur différents niveaux. D'autres ont dit encore, que c'était Astérix à Byzance, ou Tintin à Rome, ou encore, comme a dit Roger Caillois, que c'était un remake de Fanfan la Tulipe, d'autres que c'était un western ou une bande dessinée, et tout ça, je l'accepte très volontiers. J'ai essayé d'écrire ce livre sur plusieurs niveaux et à plusieurs entrées, c'est vous dire que j'accepte absolument toutes les interprétations qu'on peut en faire, chacun y trouve son bonheur, et alors en dehors de cette perspective littéraire, j'imagine qu'on peut lire, et je le dis dans le livre, dans des perspectives politiques ou religieuses diamétralement opposées. Je pense qu'on peut y voir une apologie de la tradition, ou une apologie de la révolution, ou une apologie de l'indifférence et du jugement fichisme. On peut y voir absolument tout ce qu'on veut, non pas parce que le livre est informe, j'espère, mais parce qu'il a suffisamment de facettes pour pouvoir répondre aux rêves et aux songes de chacun.
Dany Laferrière, lui qui admirait tant les écrivains, François Mauriac, Aragon, Chateaubriand, Paul Morand, il a eu à un moment un complexe d'écriture qui lui est resté jusqu'à la fin de sa vie, ou est-ce que le succès qu'il a rencontré auprès du grand public aussi l'a libéré d'une certaine manière de cette peur qu'il avait peut-être dans l'écriture au départ?
Ah oui, je ne sais pas. Comme Manuel Carcassonne a dit, il y a beaucoup de Jean d'Ormesson dans l'espace public, mais il y a beaucoup de Jean d'Ormesson dans l'espace intime aussi. Je ne sais pas si la faveur du grand public a apaisé et son âme inquiète. C'est toujours très difficile de se mettre dans le face à face avec Chateaubriand. Et on n'en sort pas facilement. Mais comme c'est un homme qui avance dans le temps, et donc il a bien vu qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais je viens d'entendre tout à l'heure sa voix. Et c'est une chose, il faudrait en parler de cette voix-là. Et c'est une voix qui était beaucoup plus jeune, beaucoup plus verte, et qu'il a appris à ralentir plus tard, et pour lui donner cette force, cette présence, cette puissance, qui a rappelé, même si ceux qui n'ont pas connu la voix de Fontenelle, une voix beaucoup plus quiète qu'inquiète, et vers la fin. Et je crois que cette voix a contribué à son charme et à charmer le grand public. C'était plus une voix qui était tournée et vers lui-même, comme il a, disons, étalé dans cette floraison de choses et de points de vue qui pourraient remplir tout un magazine à propos de son dernier livre. La voix était plus tournée vers les autres et parlait de choses qui touchaient plus les gens, la mort, et comme ça, la mort, l'amour des livres, il en a toujours parlé, mais cette fois-ci, on dirait qu'il a élargi le canal et vers la fin.
Manuel Carcassonne, c'était aussi, vous diriez, une voix de la littérature tournée vers les autres, c'est-à-dire qu'en parlant de lui, il parlait de nous tous finalement.
Oui, je pense qu'il y a une part chez lui de destin très lié à son milieu et à sa naissance, à une certaine période. Je veux dire, c'est quand même un normalien de la rue d'Ulm. C'est un homme né dans une forme de d'aristocratie qui n'a littéralement plus son égal aujourd'hui, hein. Et en même temps, c'est quelqu'un aussi de très engagé dans la vie réelle, dans la vie concrète, à travers la politique, à travers un intérêt journalistique permanent, etc. Vous demandiez tout à l'heure à Jean-Christophe Ruffin s'il s'intéressait à ce qui se passait à l'étranger. Mais il adorait ce qui se passait à l'étranger. Moi, je me souviens de lui revenant de voyages des quatre coins du monde, et il était d'une curiosité vibrillonnante. À travers ça, il y avait une forme de pensée de l'extérieur, aussi une forme de pensée de la vie des autres. Mais je pense que c'est pour ça que tous ces livres sont assez différents. On verra aussi, avec le tamis du temps, ce qui restera de l'aspect du roman classique chez lui, ou de ce qui restera de l'aspect du roman, je dirais, plus autobiographique ou autobiographie intellectuelle, comme je disais tout à l'heure.
Dans plusieurs de ses livres, il se prête à un exercice d'admiration pour les écrivains qui lui étaient chers, et notamment dans Odeur du temps. Il en disait d'ailleurs de cette littérature qui comptait tant pour lui. Qu'est-ce qui a compté pour moi? Les livres, je leur ai voué un culte, je leur ai consacré le plus clair de mon temps. Est-ce que c'était les livres ou est-ce que c'était les écrivains? Il aimait les grands classiques, on l'évoquait, mais il aimait aussi beaucoup ses contemporains.
Modiano est un merveilleux écrivain. J'aime beaucoup Déon. J'aime beaucoup un écrivain comme Quignard. Je regrette beaucoup que Quignard ne soit pas à l'Académie. Claude Lanzmann. Il n'y a pas cette efflorescence qu'il y avait au début du siècle. Ce qu'on peut dire de plus simple, c'est que quand j'avais 10 ans ou quand j'avais 5 ans, le flot des traductions était d'Europe vers l'Amérique. Et aujourd'hui, c'est effrayant, l'inversion. Les flots de traduction sont d'Amérique en Europe. C'est très rare qu'un écrivain français, ou d'ailleurs un écrivain européen, soit publié un romancier soit publié en Amérique, alors que les romans américains sont innombrables et qu'il y a des romans africains excellents, des romans sud-américains que j'admire beaucoup, des romans japonais sans nom, naturellement Mishima, mais quelqu'un comme Inoue, Le fusil de chasse, c'est un livre magnifique. Donc, il est bien clair que la France a perdu, la langue française a perdu la place dominante qu'elle avait il y a 100 ans.
Et c'est aussi, Daniela Ferrer, un combat qu'il a mené pour la défense de la langue française, pour la francophonie aussi, comme on dit aujourd'hui, en plaidant pour que, sous la coupole, entrent aussi des profils d'écrivains, de grands écrivains variés, des femmes déjà, il faut quand même le rappeler. C'est grâce à lui que Marguerite Yourcenar fait son entrée à l'Académie française. C'est aussi à travers lui que Simone Veil va faire son entrée, puisqu'il va faire la réponse à son discours de réception, faire entrer des femmes sous la coupole. C'était son idée folle, mais aussi, Daniela Ferrer, des écrivains comme vous, qui ont toute leur place dans cette institution qui était jusqu'ici un peu poussiéreuse, un peu fermée. Ça a été l'œuvre du Benjamin de l'Académie, que d'ouvrir les portes pour une défense de la langue.
Et ça, il a bien fait. Il a été aux premières lignes. Je me souviens qu'il était malade quand il fallait voter au moment où j'allais accéder à l'Académie française. Il y allait quand même. Et ce jour-là, et il a tenu à faire un discours, les mains dans les poches, à la mairie de Paris, pour me remettre mon épée. Donc il aimait bien ça, et ouvrir les fenêtres nouvelles.
Et ouvrir la langue. ouvrir la langue
française. Ah oui, bien sûr, que toute la sonorité, toute la musique, et la musique ne veut pas dire, ça veut pas dire exotisme, et toute la musique en France même, il y a parlé de Quignard, et là, c'est une musique différente de d'autres. Et oui, il y avait quelque chose de lui qui était un guide des portes étroites.
Il a dit d'ailleurs à votre propos avoir eu un vrai coup de foudre pour vous et pour votre œuvre. C'était aussi ça qui comptait pour lui, appuyer des écrivains, Manuel Carcassonne, qui était important pour lui. C'était un passeur.
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. C'est que quand il faudrait réécouter, le diffuser, son discours pour l'entrée de Marguerite Yourcenar est incroyable. Moi, je l'ai vu. Le discours, j'étais pas vu à l'époque. Hein. Je l'ai écouté avec Jean. Il avait retrouvé une cassette, des cassettes VHS. On avait regardé ensemble et j'y avais été stupéfait. Je l'avais lu, mais j'avais jamais vu. J'étais stupéfait par le discours et par l'effet, si vous voulez, de sidération et de surprise de faire entrer pour la première fois une femme à l'Académie française qui existait depuis des siècles. Et il y a quelque chose dans le discours de profondément classique et en même temps de profondément révolutionnaire. Il faut jamais oublier, comme il s'en vantait lui-même, Jean est le descendant de Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui avait voté la mort du roi. Donc c'est un aristocrate régicide. Et pour moi, toute la contradiction formidable du personnage est aussi là-dedans. Un aristocrate régicide.
Retour. Son énergie aussi. C'est là qu'il trouve l'énergie, la source d'énergie, cette façon de tenter d'allier les contrastes et de faire... Il y a une phrase de Borges qui lui... pourrait lui aller très bien. Et il dit, il parle des aventures secrètes de l'ordre et de la raison. Et il donne l'impression d'être pour l'ordre et la raison, mais il y met aussi des petites bombes sous le siège de l'ordre.
Retour sur l'œuvre de Jean d'Ormesson, écrivain, académicien dont on a appris la mort cette nuit à Paris à l'âge de 92 ans. Grand prix du roman de l'Académie française en 71 pour la gloire de l'Empire avant de rejoindre l'institution 2 ans après, entré sous la coupole au fauteuil de Jules Romain en Benjamin. Retour sur une candidature dans sa voix.
Vous connaissiez Jules Romain ?
Très peu. Très très peu.
C'est ce fauteuil que vous souhaitiez...
Je suis très heureux et très fier d'avoir le fauteuil de Jules Romain, mais je dois vous dire que c'est plutôt les circonstances. Et il y a eu un moment donné comme ça où tout à coup quelqu'un, pourquoi ne pas le citer, c'est Paul Morand, m'a téléphoné en disant « Alors, vous y allez ?» Vraiment, honnêtement, j'ai dit « Vous y allez, mais où ?»« Eh bien, vous envoyez votre lettre. » »« Quelle lettre ?»« Votre lettre de candidature. » Alors là, tout de même, j'ai compris et j'ai réfléchi une nuit et puis j'ai envoyé ma lettre.
Ça, c'était la voix de Jean d'Ormesson racontant comment il est entré presque inopinément à l'Académie française. Vous voulez dire un mot, Manuel Carcassonne ?
Oui, parce que j'ai assisté à des conversations merveilleuses. Il y avait trois amis. Il y avait François Nourricier, Maurice Reims et Jean d'Ormesson. François Nourricier était un personnage considérable de l'époque. Hélas, trop oublié aujourd'hui. Un très bon écrivain, Maurice Reims, qui a été académicien, et Jean. Et tous les trois étaient amis de Paul Morand. Et il fallait voir dans cette espèce de trio de personnalités d'ailleurs très différentes, finalement aussi les héritiers spirituels de Morand. Il y a aussi cet aspect-là chez lui, même avec, donc qui contraste aussi avec beaucoup d'autres, mais qui est important. Et l'aspect, je dirais, académique chez lui, et c'est beaucoup Morand aussi qui leur a transmis.
On a avec nous en ligne un autre académicien que vous connaissez bien, Daniel Ferrer, c'est Marc Lambron. Bonjour.
Bonjour.
Marc Lambron, qui avait publié encore récemment 40 ans chez Grasset. Vous êtes académicien et vous avez reçu des mains de Jean d'Ormesson la fameuse épée. Juste pour revenir avec vous aussi sur l'importance de ce qu'il a écrit, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui, Marc Lambron, un livre important pour vous de Jean d'Ormesson ?
Bah, je dirais, il faut bien savoir que Jean d'Ormesson s'est vu jusqu'à 40-45 ans comme un écrivain, sinon rentré, en tout cas raté, et qu'il écrit « Au revoir et merci ». Alors je crois qu'il faut lire « La gloire de l'Empire », qui est ce livre de 71, qui est un livre un peu borgésien, qui est l'histoire d'un empire imaginaire. Et puis peut-être le livre matrice de tous les autoportraits cryptés, plus ou moins cryptés, qu'il a ensuite donné, un livre comme... du côté de chez Jean, qui est la première esquisse de cette autosculpture finalement qui fera de lui une sorte de trésor national vivant à la japonaise.
Passionné aussi de politique, hein, Jodor Meusson, il le disait, la politique c'est l'histoire en train de s'écrire, vous et lui, vous partagiez cet imaginaire commun, la passion de la grande histoire passée ou en train de se faire.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait, Jean avait l'élégante pudeur de masquer que c'était aussi un grand universitaire. Il était normalien, il était agrégé de philosophie, il avait beaucoup côtoyé Raymond Aron, Caillois et beaucoup d'intelligence cosmopolite à l'UNESCO. Donc il y avait ce côté, j'allais dire Toynbee, enfin le côté en tout cas on regarde en surplomb non seulement les étoiles, mais on regarde aussi ce qui se passe sur la Terre. Enfin c'était un grand chroniqueur, c'était un très bon éditorialiste au Figaro, et toujours, ce qui me frappait chez Jean au fond, c'est que il y avait cette façon de c'est l'aristocrate démocrate, comme le disait Manuel Carcassonne, il sculptait sa légende du côté de Saint-Fargeau, de l'accent gratin, et en même temps c'est peut-être une sorte de surfeur du contemporain. Il y a 15 ans, il disait qu'il devait sa faveur du moment à Julien Doré, qui portait un tatouage Jean d'Ormesson sur le corps, et à Laurent Gérard, qui le rendait encore plus populaire par ses imitations. Et le succès aussi de Jean d'Ormesson, c'est un personnage qui fait corps avec son œuvre. Il avait été l'invité le plus fréquent de Bernard Pivot, et au plaisir de Dieu, comme feuilleton télévisé, quelque chose qu'il a installé. Donc c'est un très curieux mélange d'encyclopédisme à l'anglo-saxonne et de présence temporelle dans les réseaux. C'était un très bon client aussi, comme on dit, la télévision.
Merci beaucoup, Marc Lambron, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Il était, vous le disiez, l'homme, l'écrivain des grands écarts, hein, parmi les écrivains les plus invités dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Il a fait aussi son entrée en 2015 dans la collection La Pléiade des éditions Gallimard d'Annie Laferrière.
Il en était très content.
Oui, il en était très fier.
Et moi, je crois que c'est le seul Pléiade que j'ai avec signature. oui, il avait apporté sa petite pile de Pléiade à l'Académie et ceux qui voulaient bien, il signait. Voir quelqu'un signer sa Pléiade, ce n'est pas courant. Et il en était très fier.
Quel livre retenir de Jean d'Ormesson?
Oh, c'est bizarre. Et depuis que j'ai appris sa mort, il y a quand même pas très longtemps, puisque j'étais perdu dans un travail d'écriture ce matin, et tout s'est effacé pour apparaître uniquement le visage de l'ami. Et ce que je retiens, c'est son amabilité, et beaucoup plus que toute autre chose, parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Il faut pas cracher sur son livre qu'il a fait connaître dans le grand public et au plaisir de Dieu et qui a il y a quelque chose dans cette autobiographie de Petit Pousset dont parlait Emmanuel Carcassonne, autobiographie de la vie et autobiographie de la mort, parce qu'il voulait mettre en scène tout. Il a pris soin de mettre en scène et sa mort aussi, c'est-à-dire d'en assurer tout l'exégèse, si l'on peut dire, sur plusieurs livres et ces dernières années. Moi, je retiens l'homme qui écrit, l'homme en train d'écrire, et tout le temps. Et pour aussi faire mentir tous ces gens de sa génération qui avaient douté de lui, jusqu'à son dernier livre, je me souviens d'une petite pointe qu'il a lancée à Bernard Franck.
Ah oui.
Bernard Franck, où êtes-vous maintenant?
Il y avait une querelle littéraire très très forte avec Bernard Franck.
Et donc, dans ses livres aussi, il y a des petites caches comme ça, où il règle des comptes avec des contemporains, avec le destin, et avec les moqueries de l'époque, avec aussi les bienfaits. Donc, c'est une bibliothèque à l'intérieur de ses livres.
Merci beaucoup, Dany Laferrière. Merci mille fois à vous, Manuel Carcassonne, d'être venu parler de Jean d'Ormesson. On terminera sur ces mots à lui. « Je ne vaux rien que dans le loisir. En ouvrant mes volets ce matin-là, un grand bonheur m'envahit. Je ne savais plus quel jour nous étions. C'est un des signes les plus sûrs de la félicité. » Extrait de « C'est l'amour que nous aimons », Jean d'Ormesson, préface de Marc Lambron chez Robert Laffont. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Il est 12h31 sur France Culture.